autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour remonter aux origines de l'univers, aujourd'hui carrément. Autour de la question, peut-être la plus vertigineuse qui soit, comment tout a commencé ? Question ouverte et partagée en direct, ici et maintenant, par l'éminent physicien italien Guido Tonelli, l'un des principaux découvreurs du boson de Higgs, dans un ouvrage à nul autre pareil, intitulé « Genèse » ou « Le grand récit des origines », paru en français aux éditions d'Uno. Cet ouvrage, dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs et auditrices, est déjà un best-seller international et pour cause, car Guido Tonelli y partage sa science, la physique des particules et les plus récentes avancées dans la compréhension de l'univers, mais sous la forme d'un récit inspirant qui fournit des pistes de réponse et de recherche aux interrogations les plus essentielles que se posent les êtres humains depuis toujours, à la fois curieux et émerveillés par les grands mystères de l'univers. Nous avons besoin de poésie, désespérément. C'est ce graffiti découvert dans une ruelle de Palerme que Guido Tonelli met en exergue de son ouvrage. Autour de la question « Comment tout a commencé ?» Bienvenue dans la genèse de l'univers, selon Guido Tonelli, le grand récit des origines, préfacé par un autre grand esprit libre et ouvert, son grand ami, le célèbre physicien philosophe Carlo Rovelli.
D'où ça vient, je ne sais pas. J'étais curieux depuis toujours et j'ai toujours eu l'impression qu'il y a quelque chose d'intéressant au-delà de la colline que je ne connais pas encore, que je veux aller voir. La science peut avancer seulement si elle ne renferme pas en soi-même. La culture est une. Nos tentatives de comprendre le monde sont nourries par la science, par la littérature, par la philosophie, par l'art. Bien sûr, chacune de façon différente, mais on apprend de toutes les disciplines et on apprend de toutes les cultures, de tous les gens. C'est en ouvrant qu'on va en avant.
Eh bien, ouvrons donc tout grand les portes et les fenêtres, comme le dit votre ami le physicien Carlo Rovelli, qui a donc préfacé votre grand récit des origines. Guido Tonelli, bonjour.
Bonjour, bonjour à vous et à toutes les auditeurs.
Merci d'avoir profité de votre passage à Paris pour être en direct avec nous sur RFI. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes professeur à l'université de Pise. Guido, physicien des particules internationalement reconnu, lauréat de prestigieux prix scientifiques et pour cause, vous êtes un des plus grand expérimentateur de la physique fondamentale, comme le dit d'ailleurs Carlo Rovelli, car vous êtes l'un des principaux protagonistes de la découverte du boson de Higgs au CERN, qui a valu le prix Nobel en 2013 à Higgs et Engelt. Est-ce que c'est la découverte de ce boson qu'on avait un peu vite surnommé la particule de Dieu qui vous a donné l'idée absolument géniale, Guido Tonelli, d'écrire, de réécrire la Genèse, version Guido, le grand récit des origines en sept moments décisifs, depuis donc les tout premiers instants de l'univers, le vide, la première lumière, et jusqu'à la naissance de la vie et l'émergence de notre humanité. Au commencement était le verbe pour le physicien Guido Tonelli.
Oui, dans quel sens, oui. Parce que jusqu'au moment de la découverte, j'étais trop pris par l'activité scientifique en première ligne. Non et, mais après la découverte, on a découvert qu'il y a la possibilité de réfléchir et il y a la possibilité de partager tout ce que nous avons appris avec la première mes amis, les étudiants, le milieu scientifique, et après les amis qui viennent à dîner avec nous. Et j'ai découvert qu'il y a quelque chose à l'intérieur de chacun de nous, qui il a donc la demande que vous avez déjà notée. D'où vient tout cela ? Cette question,
comment tout a commencé ? D'où venons-nous ?
Oui, c'est une question qui est à l'intérieur de nous, de toutes, de scientifiques, des enfants, des employés, de tout le monde. Alors, après la découverte, j'ai eu le temps, oui, de réfléchir et me suis posé la question. Tout ça que nous avons compris de la naissance de l'univers, de la formation de la matière, c'est important. C'est important à partager avec notre communauté, la communauté de la cité, de la ville, du pays, du continent, du monde entier. tout doit partager ces concepts qui sont magnifiques et qui sont nécessaires à connaître.
Hein? Et pour partager donc ce que vous avez découvert, cette particule élémentaire, ce boson de Higgs et tant de choses, qui est impartageable au fond parce que c'est très compliqué à dire avec des mots, pour le partager, vous le faites en récit. Alors vous appelez la poésie, on l'a dit, mais vous citez aussi l'écrivaine Karen Blixen, « Tous les chagrins sont supportables si on en fait une histoire ». Il faut en passer par le récit, il faut arriver à dire en mots ce qui est très difficilement explicable, ce que vous avez commencé à comprendre, à chercher en tant que physicien des particules.
Oui, parce que la science c'est une puissance incroyable, mais utilise un langage difficile. C'est un langage spécialisé et doit être entraîné pour plusieurs années pour comprendre le langage scientifique, pour utiliser les équations. Et c'est très difficile. Alors, on a un problème en face de nous. Si je vais partager le contenu, les résultats plus importants de la science moderne, mais je ne peux pas utiliser le langage scientifique qui coupe, qui est un obstacle difficile à remonter pour la majorité du monde. Je dois utiliser un autre langage. Non? Alors j'ai décidé d'utiliser le langage commun, le langage habituel, le langage qu'on peut utiliser en radio ici, un dîner entre amis. Et je vais perdre quelque part de la précision, parce que...
Bien sûr, on ne peut pas être aussi précis.
On ne peut pas être aussi précis avec les équations. Mais j'ai l'impression qu'on peut maintenir, disons, la partie plus intéressante des concepts de la physique moderne, non? La merveille de ce concept et la nouveauté de ce concept, même dans un langage habituel, non? Et ça, c'est, disons, le pari que j'ai fait avec Genèse, non? Les récits sont nécessaires parce que les récits nous permettent d'avoir un rythme, de suivre un récit. Nous sommes habitués aux récits de
Mais
l'enfance.
Mais vous n'avez pas choisi n'importe quel récit et n'importe quelle histoire pour nous raconter les origines. Vous avez choisi la Genèse, 7 jours. Alors évidemment, ce n'est pas 7 jours. C'est incroyable, finalement, vous c'est pas que vous résumez, mais vous nous faites partager, vous nous prenez par la main pour nous faire partager ce qui a été découvert. Au commencement était le vide, on y reviendra, la première lumière, puis vous donnez des noms insensés, les quasars deviennent des dragons et autres. Mais vous avez choisi la Genèse, la Bible, donc un récit au fond qu'on connaît tous.
Oui, oui, ça c'est pour être... Pour éviter toute forme de difficulté, non? J'ai choisi, disons, un squeleton qui est bien connu. Non? C'est le livre
le plus connu
du monde. Non?
Ouais.
Et les 7 journées de la création, c'était facile pour moi de faire un petit truc, non? Et de transformer les 7 journées en 7 catastrophes qui ont duré, qui est variable, non? De 10 ou moins 35 secondes jusqu'à 1 milliard d'années. Non?
C'est alors ça, en 7 jours. Donc
7 jours qui deviennent une chose. Le message ici pour le lecteur, c'est simple. Non? Venez avec moi. Non? Vous allez comprendre tout ce récit. Non? N'avez pas peur. Non? C'est un récit qui suit une chose que vous avez déjà connue et on va introduire des concepts totalement nouveaux, totalement merveilleux, mais n'avez pas peur, non? C'est une partie de votre monde qui est décrit ici.
De votre histoire, de notre histoire commune, de l'histoire de notre univers. Alors, on va y revenir évidemment à vos 7 chapitres parce que vous nous faites véritablement comprendre ça. Mais je me demandais tout de même, parce que vous faites passer à la fois l'émerveillement, à la fois les connaissances, la curiosité, mais aussi le mystère, hein, parce qu'il y a plein de questions sans réponse. Au fond, vous ouvrez tout un tas de questions. Est-ce que le mystère... s'est épaissi ou est-ce qu'il s'est éclairci après la découverte du boson de Higgs, cette particule qui a été cherchée pendant 50 ans, qui avait été subodorée, mais que vous avez trouvée au CERN?
Oui, c'est une chose merveilleuse parce que on a compris maintenant, disons il y a 10 ans, on a compris une question qui est restée là 2500 ans. C'était incroyable, non? Parce que même tous les savants les plus importants de l'histoire de la science Newton, Galilée, ils ont découvert que la masse est à l'origine de la force gravitationnelle. Non? Einstein, il a découvert que masse et énergie sont la même chose. Non? Mais toujours, même les géantes de la science ou de la physique ont toujours pensé la masse comme une propriété intrinsique de la matière. Et maintenant, on a découvert l'origine de la masse. On a découvert l'origine que la masse est une propriété dynamique. Que toutes les particules naissent sans masse, ils deviennent particules particulières, différenciées à l'origine de l'univers, avec cette interaction, masse comme propriété dynamique de l'univers. Alors on a vraiment compris un moment magique de notre histoire, qui s'est placé à 10 moins 11 secondes, non, juste après le Big Bang. Un petit instant, mais cet instant a transformé un univers symétrique et parfait dans un univers qui est l'univers qui a produit les étoiles, les galaxies, les planètes, les rochers, la vie, jusqu'à nous.
Et tout ça grâce à une petite particule, au boson, donc pensé hein, par les physiciens Higgs et Engel, qui ont d'ailleurs obtenu le prix Nobel pour ça. Ce moment de cette découverte, j'imagine qu'il a été assez insensé, assez formidable. Vous l'avez partagé notamment avec Fabiola Gianotti, aujourd'hui directrice du CERN, qui était à l'époque porte-parole de la collaboration Atlas. Vous avez d'ailleurs annoncé avec elle, hein, oui. Vous étiez porte-parole de la collaboration CMS, vous l'aviez annoncé un an avant. Hein, la découverte du boson de Higgs avant oui. Vraiment de pouvoir le dire aux médias. Mais revenons sur ce moment précis, hein, sur l'annonce de cette formidable découverte tant attendue, tant espérée du boson de Higgs, un événement planétaire. C'était le 4 juillet 2012.
I think we have it. You agree?
C'est considérable, historique, universel. On vient de découvrir le boson de Higgs que l'on cherchait depuis près de 50 ans.
Je suis vraiment stupéfait, je n'aurais jamais pensé assister à cela de mon vivant.
Combien dites-vous ?
50 ans que l'on traquait le boson de Higgs, c'est le triomphe de la science.
Rolf Deuter-Hauer a confirmé la découverte d'une nouvelle particule subatomique qui pourrait être le boson de Higgs. La particule de Dieu semble plus que jamais à portée de main.
Au début, il y a plus de 40 ans, les gens n'avaient aucune idée de où il fallait chercher.
La découverte d'une nouvelle particule, c'est un peu le rêve pour un chercheur dans notre domaine. Donc, ça a été un moment magnifique. La découverte a été faite par les deux grandes expériences, Atlas et CMS. Moi, j'ai eu l'honneur, comme porte-parole, chef de projet d'Atlas, de l'annoncer avec le professeur Joe Incandela de l'expérience CMS. Ça a été un aboutissement, un début. Aboutissement parce que c'était un long chemin. Un long chemin avec des grands défis. Et ça a été un chemin accompli à travers la collaboration des milliers de scientifiques du monde entier. Donc c'était un peu l'aboutissement de découvrir cette particule très spéciale, parce que le boson de Higgs est une particule vraiment spéciale, différente par rapport aux autres particules qu'on avait découvertes auparavant. Mais c'est aussi le début d'un nouveau chemin, parce que le boson de Higgs lui-même reste une particule mystérieuse et peut-être la clé pour la porte vers la nouvelle physique.
La clé, hein, pour la porte d'une nouvelle physique. Alors, arrêtons-nous quand même sur ce moment de cette découverte. C'est pas rien pour un physicien des particules comme vous que d'être un des protagonistes de cette formidable collaboration. Fabiola Gianotti pour la collaboration Atlas, vous pour la collaboration CMS avec des physiciens du monde entier qui y ont collaboré. Ça fait quoi quand on découvre ce qu'on ne savait peut-être pas qu'on découvrait? C'est Higgs lui-même qui le dit de son vivant. Oui.
C'est difficile à décrire, non? Parce que la traque, dans notre cas, a duré 25 ans. Et c'est 25 ans de crise, de difficultés, de peurs.
De doutes.
Parce qu'il était difficile. Il était difficile. La génération avant nous avait failli pour plusieurs raisons. Et nous avions la même idée, on va faillir. On va
pas y arriver.
Pas arriver. Parce qu'il était une sorte de mission impossible. Non, c'était trop compliqué, l'accélérateur, les détecteurs. C'était une série infinie de crises. Non, et après, si vous avez compris toutes les crises, dans les moments dans lesquels vous voyez les premières évidences de quelque chose qui est présent qui est dans les données, qui est là, et vous ne criez pas, vous êtes... Et même aujourd'hui... Quelquefois, je me réveille le matin, je me dis, c'était vraiment vrai, non? Parce que c'était...
Ah, vous pensez, ah oui, vous n'y seriez pas arrivé, enfin. Vous n'arrivez pas à y croire, presque.
Encore. Mais moi, comme Fabiola, comme les autres, parce que vraiment, c'était une aventure incroyable, non? Et on a eu de la chance, parce que c'est vrai que nous avons travaillé très dur, mais à la fin de la journée, c'est même de la chance, parce que la machine a travaillé d'une façon parfaite, toutes les collaborateurs. Vous pensez, on a milliers de physiciens qui sont au travail. Les physiciens sont des esprits libres, non? Mettre
Absolument.
Ensemble et faire travailler pour le même but de milliers d'esprits libres, c'est difficile. Mais tout a marché d'une façon parfaite.
Et de toutes les nationalités en guerre, hein,
oui,
peu
oui,
importe,
oui,
les physiciens
oui,
ont collaboré
oui, oui.
pour trouver cette infime particule.
Pour comprendre la nature, donc elle est difficile. C'est extrêmement difficile. Et après, bien sûr, on est là, on a une joie incroyable, difficile à
partager, j'imagine. Ouais.
Mais tout de suite, non, on a mis les champagnes à part, tout de suite,
ouais,
on
ouais.
a commencé à dire, oh, regardons
qu'est-ce
ça.
Qu'est-ce
qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il est lui? Est-ce qu'il y a des anomalies? Est-ce qu'il y a des autres choses à découvrir? Et
mais,
on est là toujours. On
mais
est
c'est
là
ça
toujours.
Qui est fou, c'est qu'en fait, tout de suite, assez rapidement après cette découverte du boson de Higgs, j'ai l'impression que la communauté des physiciens et des scientifiques a été presque déçue parce que ce boson de Higgs correspondait beaucoup trop exactement au modèle standard de l'univers et à tout. Vous auriez presque aimé pouvoir aller plus loin.
Oui, mais ça, c'était trop optimiste, non? Parce que, disons, on a encore cette question, non? Est-ce qu'il est vraiment lui et il y a seulement lui? Non, ça, c'est une question toujours ouverte.
Peut-être qu'il y a d'autres particules...
Par exemple, non, on a des mystères, peut-être qu'on va discuter. Une
Bien
de
sûr.
Ces mystères, c'est l'inflation cosmique, une particule
oui.
scalaire qui est très similaire au boson de Higgs, qui éclenche la transformation d'une fluctuation quantique du vide et produit un univers matériel. Non, cette particule, c'est très important.
L'inflation, ce qui a permis l'inflation de l'univers. On ne l'a pas encore découvert.
C'est une particule qui est similaire au boson de Higgs, mais qui est une particule scalaire. Alors, la question est, est-ce que c'est lui qui a déclenché l'inflation? Peut-être non. Mais est-ce qu'il y a des autres, des cousins qui ne sont pas encore découverts? Alors, maintenant, on va chercher au-dessous de toutes les pierres pour chercher s'il y a des petits poissons, des autres scalaires qui accompagnent les bosons de Higgs. Et si quelqu'un va trouver cette particule, c'est une autre révolution. C'est une autre... Parce que s'il y a une autre particule, le modèle standard doit être remplacé dans une autre théorie plus générale.
Vous avez les yeux qui brillent, comme Fabiola Gianotti avait les yeux qui brillent quand elle parlait de ça, quand elle disait on va peut-être trouver quelque chose qui va encore tout transformer. Parce que cette particule, ce boson dans les médias, on a dit à un moment, mais est-ce que vous n'allez pas avec votre accélérateur de particules provoquer la fin du monde? Enfin, il y a eu, on a parlé de la particule de Dieu. Enfin, or vous, ce qui vous excite, c'est d'aller finalement toujours plus loin, encore plus loin. Avec quoi? Avec des plus gros accélérateurs de particules, avec plus de cerveaux de physiciens mis ensemble?
Oui, on a besoin, la première, c'est d'exploiter le LSC jusqu'au fond. On a encore
le grand accélérateur de particules
à Genève, qui est en marche, c'est remis en marche maintenant, après 2 années et 3 années presque d'entretien. Et on peut encore faire augmenter la luminosité, l'intensité des collisions. Ça veut dire produire centaines de milliers de bosons de Higgs, étudier en détail toutes les caractéristiques et chercher des autres particules. Et après, les investissements pour les grandes infrastructures scientifiques ont besoin d'une planification de plusieurs décennies.
Dizaines d'années, bien
sûr. Alors, on va toujours discuter, on va se réunir ici à Paris à la fin de mois de mai, début juin, une grande collaboration internationale qui s'appelle FCC, c'est le Future Circular Collider. On va discuter maintenant un nouvel accélérateur qui peut être installé au CERN ou autre part, mais dans 20 ou 30 années à partir de ce moment.
Ouais, ce sera pour vos successeurs parce que vous pensez aux générations futures, évidemment.
Pas pour moi, c'est pour peut-être les étudiants.
C'est ça, absolument. Allez, on va continuer de partager vos découvertes, vos recherches et puis les nombreux mystères que vous allez nous faire partager, que vous nous faites si bien dans le grand récit des origines aux éditions d'Uno, ouvrage dont je vous le rappelle qui s'intitule Genèse. Nous avons, chers amis auditeurs, quelques exemplaires à vous offrir et je vous assure que ça vaut le détour, comme nous allons continuer de le découvrir juste après avoir écouté, allez, un petit hommage, un petit clin d'œil au boson et à Nick Cave and the Bad Seeds qui nous chante le Higgs boson blues sur RFI.
Can't remember anything at all. Flame trees line the streets. Can't remember anything at all. I'm driving my car down to Geneva. Sitting in my basement patio, it was hot. Up above, the girls walk past their roses all in blue. Hey, have you ever heard about the Higgs boson blues? I'm going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. Who cares? Who cares what the future brings?
Cave and the Bad Seeds sur RFI, petit extrait de leur Higgs boson blues, juste pour vous. Cher Guido Tonelli, puisque vous êtes l'un des principaux protagonistes de cette fabuleuse découverte du boson de Higgs, comme vous l'écrivez d'ailleurs dans le deuxième chapitre, le deuxième jour de votre genèse, dans le grand récit des origines, le contact délicat d'un boson change tout à jamais. Alors ça, c'est pour les origines de l'univers. Mais avant d'en arriver là, il y a d'abord, dans ce grand récit des origines, dans cette genèse, un commencement. Et au commencement était le vide, nous raconte le physicien que vous êtes, avant le Big Bang. Donc le vide, mais comment parler de ce vide avant de vous laisser répondre, Guido Tonelli? Je vais laisser l'administrateur du Collège de France, Thomas Romer, éminent spécialiste des mondes bibliques, vous poser la question à sa manière et presque dans toutes les langues de la Bible. On l'écoute.
Alors, est-ce qu'on peut penser le vide d'une manière absolue? Parce que ce qui est intéressant dans le récit biblique, on dit lorsque Dieu commence à créer le monde, elle était tohu vabohu, donc elle était chaotique. Mais en même temps, c'est pas une création à partir de rien, parce qu'on dit il y a les ténèbres, il y a les eaux, il y a déjà quelque chose avec lequel, en fait, le Dieu créateur va bricoler. Qu'est-ce que c'est pour le physicien le vide?
Est-il possible de répondre aux théologiens, Thomas Romer, au professeur des milieux bibliques au Collège de France, qu'est-ce que c'est que le vide? Au commencement était le vide. Guido Tonelli, c'est vous qui le dites dans cet ouvrage Genèse.
Oui, ça c'est une chose, c'est une des merveilles de la science moderne. Non, on a dans certaines façons, découverte qu'est-ce qu'il y avait avant, non? Avant, c'est une question mal posée, parce qu'il n'y a pas le temps, non? Avant la création.
Donc avant le Big Bang, quand il n'y avait pas le temps, temps, oui, qu'est-ce qu'il y avait avant le temps?
Parce que la question, c'est, le Big Bang, c'est la production, disons, d'espace-temps un peu matière-énergie ensemble dans cette petite boule initiale. Alors, avant le temps, il y avait le temps, il y avait l'espace, il n'y avait pas l'espace. Alors, c'est difficile, mais pour nous, pour la discussion qu'on peut faire autour d'une table, c'est important de savoir, l'état précédent, non?
Parce c'est que ça, c'est ça. On peut dire c'est comme l'état ça. Précédent. On peut appeler ça vide, mais c'est l'état précédent.
Oui. Pour nous, c'est important. Et la chose que la science moderne dit, c'est vraiment très clair et très, très belle aussi. Il y a un état qui un état matériel. C'est pas un concept philosophique. Mm-hmm. C'est un état matériel qui on appelle état de vide, non?
L'état de vide.
L'état de vide, c'est un état matériel comme cette bouteille, comme un atome, non? Et avec des propriétés, nous physiciens nous l'appelons numéro quantique, non? Le numéro quantique, l'énergie de l'état de vide, c'est zéro. La charge électrique de l'état de vide, c'est zéro. Mm-hmm. L'impulsion de l'état de vide, c'est zéro. Alors, le moment angulaire de l'état de vide, c'est zéro. Non? Alors, tous les numéros quantiques sont zéro. Mais c'est un état matériel. Et il y a une assonance incroyable. Encore, il a mentionné le chaos.
Mm-hmm. Le chaos.
Chaos, en grec... on l'a traduit désordre, non? Mais il y a des assonances avec kaino, casco, c'est une gorge profonde, c'est un abîme, c'est le vide. Non? On peut traduire les fameux vers d'Hésiode. Au commencement, il était le vide. C'est la même. Pour moi, c'était une découverte incroyable. Les choses qu'on connaît aujourd'hui par la science moderne, qui disent tout a commencé par un état de vide, ils vont être réunis avec cet énorme cercle de 2500 ans à le premier vers de la culture occidentale.
C'est-à-dire que pour faire passer, pour comprendre les notions les plus contemporaines de physique, les découvertes de la physique fondamentale du XXe et du XXIe siècle, on peut tout à fait, nous, comme un des mortels qui ne sommes pas physiciens, se rapporter à nos mythes, à nos poètes, aux grands écrivains, aux grands philosophes de toutes les traditions passées. Il y a des bribes de vérité. Et puis, il y a une manière de le comprendre pour nous. Il y a des intuitions, peut-être. Comment vous diriez ça, ces correspondances-là?
C'est nous qui créons, d'une quelque façon, notre passé. Non, comme Borges l'a dit très bien. Avec la science moderne, on va relire les classiques et on découvre des choses qui sont, qui marchent ensemble. Non? Dans ces cas-là, c'est quelque chose de vraiment étonnant. Et on a l'état de vide, un état matériel qui suit les lois de la physique. En particulier, et ils suivent le principe d'indétermination sur le plan microscopique. Si on pourrait être là, avoir, et encore, on est dans le paradoxe.
Là, on est dans le paradoxe complet, parce que c'est avant le temps, avant l'espace.
Mais imaginons. Mm-hmm. Non, pour prendre le concept, il faut imaginer d'être là. Et on voit une écume quantique qui est produit d'une façon continue. Toute une évolution, toute une sorte de mousse, non, qui se produit et qui se détruit d'une façon continue. Et là, il y a une chose magnifique. La possibilité, une de cette petite boule peut mélanger deux substances matérielles, encore de la matière, qui sont l'espace-temps et la masse-énergie. Avec le truc qui est génial. Masse-énergie, ça veut dire énergie positive. Mm-hmm. Espace-temps correspond à énergie négative. Alors, encore, il reste un état de vide. Non? On peut avoir le vide-vide et le vide-univers. Le vide-univers, c'est quoi? C'est un vide dans lequel masse-énergie est mélangée avec espace-temps. Et c'est encore vide, c'est encore un état de vide. Mais c'est un vide qui se métamorphose dans une autre forme de vide qu'on appelle l'univers matériel dans lequel nous vivons.
Vous êtes physicien ou vous êtes poète, cher Guido Tonelli? Je ne sais pas.
Non, pour moi, les poètes sont des choses vraiment, sont des professionnels et extrêmes. Mais c'est vrai qu'il quelque part, la science moderne, les concepts de la science moderne sont très proches à la philosophie, à la poésie, à autres productions culturelles.
Et on n'oublie pas l'humour non plus, parce qu'autour de la question comment tout a commencé, vous n'hésitez pas à employer l'humour. Vous ne vous prenez pas pour Dieu, même si vous racontez la Genèse. Mon cher Guido Tonelli, ça j'en suis sûr.
Je ne suis pas arrogante, disons.
Je n'ai pas l'impression, hein, franchement. Donc l'humour, la poésie, la philosophie, la science, l'art, tout est permis aux physiciens. Moi, j'ai envie de dire quand même poète et philosophe que vous êtes, surtout au bord des trous noirs. Tiens donc, les trous noirs, autre interrogation métaphysique, astrophysique. Je ne résiste pas à vous faire écouter, Guido Tonelli, un autre très grand physicien, Stephen Hawking, qui a tant travaillé sur justement les trous noirs. Je propose d'écouter un extrait de la toute dernière conférence qu'il a donnée à Stockholm. Elle est relayée par la BBC. C'était quelques mois avant qu'il ne soit définitivement emporté par sa maladie dégénérative, et toujours avec le même humour, peut-être un peu accentué même par cette voix de synthèse qui était devenue, si j'ose dire, la marque de fabrique de Stephen Hawking.
From the outside, you can't tell what is inside a black hole.
Vu de l'extérieur, vous ne pouvez pas dire ce qu'il y a dans un trou noir. Vous pouvez jeter des téléviseurs, des bagues en diamant ou même vos pires ennemis dans un trou noir. Tout ce dont se souviendra le trou noir, c'est de la masse totale, du moment cinétique et de la charge électrique. La mécanique quantique implique que tout l'espace est rempli de paires de particules et d'antiparticules virtuelles, qui se matérialisent constamment par paires, puis se réunissent à nouveau et s'annulent mutuellement. Un membre d'une paire de particules virtuelles peut tomber dans le trou noir, laissant l'autre membre sans partenaire avec lequel s'annuler. La particule ou l'antiparticule abandonnée peut tomber dans le trou noir après son partenaire, mais elle peut également s'en échapper vers l'infini, où on l'aperçoit comme un rayonnement émis par le trou noir. Le message est que les trous noirs ne sont pas aussi noirs qu'ils semblent l'être. Ce ne sont pas les prisons éternelles qu'on pensait autrefois. Les choses peuvent sortir d'un trou noir, à la fois vers l'extérieur et éventuellement vers un autre univers. Donc, si vous sentez que vous êtes dans un trou noir, n'abandonnez pas. Il y a un moyen de sortir.
L'humour absolument génial de Stephen Hawking sur ces trous noirs qui sont gris sur les bords. La métaphore, l'humour, ça marche aussi. Et là, du coup, aussi, ça, on a une image en tête. Je ne sais pas si on comprend, mais en tout cas, on peut un peu plus s'approprier les découvertes de la physique moderne et de Stephen Hawking sur les trous noirs.
Oui, c'est une question très appropriée. Parce que, je pense, demain, c'est le 12, non? On va avoir, je pense, une annonce exceptionnelle. Peut-être la première image du trou noir qui est au centre.
Ah, c'est un scoop que vous nous donnez là.
Non, mais c'est déjà annoncé. Oui. Je ne suis pas encore sûr, mais j'attends l'image de Sagittarius A étoile, qui est le trou noir qui est au centre de notre galaxie. Et si mais encore à regard de Hawking, il y a une autre chose qui est très intéressante. C'est vrai qu'on a aujourd'hui la possibilité d'avoir une information qui vienne de la région interdite, non, la région au-dessous de l'horizon des événements, de trous noirs, c'est en principe inaccessible.
C'est ça, puisqu'on tomberait dans le trou noir et que tout disparaît.
Oui, parce que tout est avalé par l'énorme force de gravité qui est à l'intérieur. Alors ça, c'est une question vraiment intéressante, parce que ce sont des régions de l'espace qui ne sont pas petites. Non, par exemple, ils sont des régions qui sont grandes comme qui ont la dimension de notre système solaire. Imaginez notre système solaire qui est entouré par l'horizon et tout ce qui passe à l'intérieur, c'est inconnu, non? La limite de la science. Mais aujourd'hui, on a un espoir. Non, à travers les zones gravitationnelles. Qu'est-ce qui sont les zones gravitationnelles? Ce sont de l'énergie qui viennent quand deux trous noirs vont en collision. Et l'énergie qui est générée par cette collision
Cette collusion monumentale, phénoménale.
C'est incroyable. L'énergie est transmise par les ondes gravitationnelles. Il arrive sur la Terre. Sur les planètes Terre, les scientifiques ont organisé des appareils très sensitifs. Et on est capable d'interpréter en partie cette énergie. Alors imaginez, dans quelques dizaines d'années, qu'on est capable de recueillir une statistique énorme des trous noirs en collision. Ça veut dire qu'on peut faire une étude scientifique de l'intérieur des trous noirs. Parce que ça, c'est l'énergie qui vient de l'intérieur. Et alors, on peut peut-être avoir des moyens d'information tout à fait nouveaux. Et on peut poser des questions qui sont vraiment intéressantes. Qu'est-ce que la physique à l'intérieur des trous noirs est la même? Est la gravité la même? Est-ce que les propriétés des trous noirs sont identiques? Il y a des trous noirs, il y a diverses familles de trous noirs. Alors, on est vraiment au bord d'une nouvelle révolution de connaissances qui vient de ça.
Grâce à ces ondes gravitationnelles.
Grâce à une découverte qui devient un moyen
d'observation dans d'autres longueurs d'onde. Oui. Et est-ce que cette découverte et d'autres, est-ce que les physiciens comme vous vont petit à petit réussir à percer des énigmes totalement majeures? Les physiciens ont parfois, ils n'ont peut-être pas le blues, mais ils aiment bien le noir. Les questions d'énergie noire, de matière noire, parce que vous nous racontez le grand récit des origines, mais malgré tout, tous les physiciens que vous êtes, avec toutes vos connaissances et vos découvertes, on ne connaît que quoi, 5% de la matière qui compose l'univers. Et 95%, on appelle ça noir. Quoi.
Oui, on connaît seulement la matière que nous appelons ordinaire. Non, c'est la matière de cette table, de la Terre, des étoiles et des galaxies. Mais ça, c'est une petite partie de la matière de l'univers. L'univers est fait par 95% non, des choses mystérieuses, qu'on appelle matière noire ou matière sombre, énergie noire, énergie sombre. Alors ça sont des gros mystères. Notre l'inflation que j'ai cité avant, et il y a des autres, la symétrie entre matière et antimatière. Notre univers est un univers fait de matière, non, et où l'antimatière est finie, non. Il y a on est vraiment ignorant, on connaît rien de l'univers, on a toujours encore des mystères incroyables.
C'est ça, au fond, finalement, petit à petit, ça me fait penser à ce que disait le sociologue et philosophe, à ce que dit Edgar Morin, qui dit au fond, plus j'apprends et plus on découvre l'étendue de notre ignorance. On sait quelque chose de cet ordre-là.
C'est vrai, parce que, par exemple, l'énergie noire, qui est 2/3 de la masse de l'univers, il n'était pas connu il y a quelques dizaines d'années arrière. Mmh. Non, et on avance, et on se pose des questions, on découvre des autres questions. Et je suis sûr que dans quelques dizaines d'années, si on peut écouter cette conversation, quel scientifique de la fin du siècle, il aura un sourire. Non,
parce que qu'il y a des choses qu'on aura compris et d'autres questions.
Et d'autres questions qui seront ouvertes.
Alors vous avez quand même un don, si j'ose dire, Guido Tonelli, pour faire passer ce genre de notion. On parlait de l'humour de Stephen Hawking, mais alors vous faites des comparaisons absolument géniales pour comprendre les neutrinos. Vous nous dites par exemple qu'ils sont timides. Magnifique. Oui. Et comme ça, on comprend pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les attraper.
Oui, sont des particules timides qui passent, qui traversent toute la Terre sans produire aucun problème, aucun dégât. Et là, parce qu'ils sont capables seulement de faire des interactions très faibles, non? Alors ça, c'est la raison qui c'est difficile à faire la détection des neutrinos. Il faut avoir une énorme quantité de neutrinos pour être capable de voir une, deux interactions des neutrinos. Mais sont des messagers intéressants, très importants.
Tout a commencé.
Oui, parce que on a utilisé jusqu'à aujourd'hui comme moyenne la plus puissante de comprendre l'origine de l'univers, qu'est-ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui est
première lumière.
Oui, la première lumière qui est encore là, non? Mais maintenant on a les neutrinos. La première lumière s'est détachée de la matière après 380 000 années.
Alors, combien de jours dans votre genèse?
C'est le cinquième, je pense.
Cinquième jour, hein, et la lumière fut.
Et Alors, c'est très important, mais il y a des autres moyennes. Non, une autre moyenne, c'est les neutrinos, qui sont séparés de la matière après une seconde, après le Big Bang. Alors, on peut, si on est capable d'étudier les neutrinos fossiles, les neutrinos cosmologiques, on peut vraiment comprendre à une seconde du Big Bang. Mais les ondes gravitationnelles, ils ont participé à l'inflation. Juste un petit, parce que vous imaginez, la
donc,
petite
donc
boule,
une petite boule,
la
au début,
petite boule
au commencement.
D'espace-temps devient.
Après le vide.
Oui, après le vide, devient tout à fait d'un coup macroscopique. Non? Alors l'espace-temps est un tourbillon et les ondes gravitationnelles fossiles sont toujours là. Il faut être capable de détecter et l'interpréter. On a encore beaucoup de moyens très puissants pour faire avancer notre connaissance.
Et on n'a pas fini autour de la question comment tout a commencé. Allez, vous l'avez dit, il y a encore pas mal de blancs et de trous, souvent noirs, et c'est tant mieux. C'est pour ça que parfois, eh ben, il faut aussi de la poésie dans ce monde et de la musique. On s'arrête sur votre très beau choix musical, Guido Tonelli. C'est Eric Satie, les premières minutes de la Gnossienne.
Autour de la question sur RFI.
Eric Satie, court extrait de la Gnossienne. Pourquoi ce très beau choix musical, Guido Tonelli?
D'abord parce que c'est magnifique.
Ah ouais, c'est
magnifique, c'est hypnotique, c'est moderne, c'est puissante. Et après, j'ai cette suggestion de toutefois que j'entends cette musique, vous avez noté, il y a des triades de notes qui, mm-hmm. non, qui s'enchaînent avec des petites modifications qui est un précurseur du minimalisme. De la musique moderne, de la fin de 20e siècle. Mais pour moi, il y a une connexion naturelle avec la troisième journée de la Genèse, la formation des premiers protons, non, qui sont des triades de quarks avec des gluons mis ensemble.
Vous entendez les quarks et les gluons dans la Gnossienne d'Eric Satie.
Je vais à la première minute de la vie de l'univers. Après, le boson de Higgs est entré sur la scène. Il a donné là une masse particulière à les quarks, et les quarks légers ont la possibilité de faire les premiers essais de la formation d'une matière persistante. Ils font des petites constructions, les premières ne marchent pas, et vous voyez, il y a comme des tentatives qui ne marchent pas, qui sont là, et après la mélodie continue, et alors j'ai l'impression de suivre avec la musique ce moment magique de la...
Le ballet des protons, les quarks
qui vont former les premiers protons.
Magnifique. Et donc ça, c'est le troisième chapitre de votre Genèse. Pardon, Carlo Rovelli, le grand récit des origines paru chez Dunod, dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs et auditrices. On n'est pas encore à la fin de cette émission, mais on va y arriver bientôt. Ça va trop vite. J'ai quand même envie de vous proposer l'éclairage d'un philosophe qui est aussi professeur de management et qui dirige la chaire Edgar Morin de la complexité à l'ESSEC. Il a un éclairage en forme de question pour vous. Il s'appelle Laurent Bibard.
Ah ben moi, ce qui m'inspire, je le trouve très important, c'est que à côté de la théorie du Big Bang, a émergé une théorie du Big Crunch. Alors, je ne sais pas où ça en est en physique, pour le coup, mais ça voudrait dire qu'éventuellement, il y aurait une recondensation de tout l'univers en une énergie et une masse infinie. Et ce que ça peut permettre d'inspirer, cette question, c'est de dire, mais au fond, peut-être que on est toujours dans une situation qu'on croit avoir dépassée, où l'univers est fini. On dit que l'univers est infini actuellement, mais il y a même des multivers, etc. Mais si il y a un commencement au sens du Big Bang, bah, avant l'univers, il y a quoi ? On ne sait pas. Et donc, il est infini dans sa finitude, dans les limites de son infinité, si je puis dire. Et s'il y a effectivement aussi un Big Crunch, il y aurait un avant l'univers et un après. Et moi, ça ne me dérange pas, ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut rien en savoir, en fait, en physique. Nos outils dépendent de l'espace et du temps, donc on ne pourra pas dépasser l'espace et le temps et pour observer quelque chose qui n'en dépend pas. Et du coup, ce qui s'impose, ce qui s'invite de manière très volontariste dans ce contexte-là, c'est au-delà de la physique, ce qu'on appelait dans le temps la métaphysique, c'est-à-dire la philosophie, de se demander « mais à quoi ça sert ? Où est-ce qu'on est ?» Et là, la science déborde vers une question de sens. Et c'est inséparable, du coup, sans aucun doute. Et vous avez dit que parmi les auteurs que vous invitez, il y a des gens qui sont à la fois philosophes et physiciens. Si on est physicien tout à fait fondamentalement, je crois qu'on ne peut pas ne pas être philosophe aussi.
C'est votre avis, cher Guido Tonelli, que je sens aussi physicien que philosophe ?
Je ne sais pas, non. Je pense que la philosophie, c'est une discipline très difficile et très importante. Et je partage pas, par exemple, j'ai été ami de Stephen Hawking, mm-hmm. et il avait une position que je ne partageais pas, j'ai toujours discuté avec lui. Il considère la philosophie pas nécessaire, non, parce mm-hmm. qu'il y a la science. Non, ça, ce n'est pas vrai. Je pense qu'il y a, toujours, mais même, c'est plus important aujourd'hui avoir une pensée philosophique. Mais tournant à l'argumentation de Big Bang et Big Crunch, on a des données scientifiques qui sont sur la table et le Big Crunch est exclu. Il n'y a aucune possibilité.
Il n'y a pas de Big Crunch.
Pour avoir le Big Crunch, il y avait une période dans laquelle on avait l'impression que c'était la bonne explication. Non, il y a un Big Bang, une expansion, et après la gravité, c'est en action, et tout s'arrête, et après on va faire le Big Bang à l'inverse, et c'est le Big Crunch. Non, et on va faire notre univers avec des autres conditions. C'était une sorte de récit intéressant, parce mm-hmm. qu'il ressemble à cette philosophie orientale. Non,
c'est ça, d'un cycle.
Oui, d'un cycle de Renaissance.
Ou les
stoïques, non, les stoïciens, mm-hmm. qui pensaient qu'il sera un autre Socrate, un autre Platon, et comme ça. Non. Mais ce n'est pas notre univers. Non, peut-être qu'il y a des autres univers. Mais
notre univers ne fonctionne pas comme ça. Il y en a peut-être d'autres.
Peut-être. Mais notre univers, la densité de la matière et de l'énergie dans notre univers, ce n'est pas compatible avec l'idée. On va vers l'expansion indéfinie.
Expansion accélérée et indéfinie.
Expansion accélérée, infinie. C'est triste. Cette eau morte froide et dans les noirs, dans le sombre, mais c'est très long.
C'est très loin,
on a encore le temps pour organiser l'été, pour faire des mariages, pour
c'est
faire
ça,
des
on
enfants.
A quelques milliards d'années.
On a quelques milliards d'années.
Quelques encore. Milliards d'années, donc ça va. Vous terminez ce dernier chapitre de votre Genèse, hein, qui est au fond le grand récit des origines de l'univers expliqué, abordable en récit pour nous. Vous terminez avec un dernier chapitre. Qu'est-ce qui fait de nous des humains ? C'est au fond la grande question derrière. Qu'est-ce qui a produit, qu'est-ce qui produit finalement notre humanité à laquelle vous êtes tant attaché, hein ? Vous citez la philosophe Simone Weil sur l'enracinement. Qu'est-ce qui a produit pourquoi on a besoin d'enracinement ? Pourquoi on a besoin d'histoire ? Pourquoi on a besoin d'imaginaire ? Qu'est-ce qui fait notre humanité ?
Je pense qu'on est là, ici. Et on est les héritiers du millier de générations qui ont construit une résilience énorme, non, contre toutes les adversités de la vie difficile de notre ancêtre.
De nos ancêtres, bien sûr.
Et pour avoir, qu'est-ce qui a tenu ensemble les petites communautés de sapiens ou de néandertaliennes, c'est quelque chose qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Et c'est le récit, c'est la culture, c'est l'avoir une vision du monde qui est encore une nécessité aujourd'hui.
Qui est une absolue nécessité aujourd'hui. Cette vision du monde, vous nous la proposez, Guido Tonelli, dans votre ouvrage « Genèse, le grand récit des origines » paru chez Dunod, dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditeurs, c'est fini. Je vous dis au revoir, mon cher Guido, et je vous dis à très bientôt. Revenez quand vous voulez.
Merci beaucoup.